Bonjour, à vous que je n'ai pas encore salué. Ce matin, nous allons nous donner le plaisir d'écouter l'introduction à l'histoire de Noël. Juste entre nous adultes, les enfants sont montés, alors nous allons, entre nous, écouter l'histoire de Noël. Ça ne se fait pas souvent parce qu'on a fait croire aux enfants que l'histoire de Noël, c'est pour eux, que c'est un conte de fées pour les enfants. Or, ce n'est pas vrai. Elle est pour nous aussi. Parce que même s'il se passe des choses merveilleuses, des anges, des étoiles qui bougent, un roi qui naît dans une étable, au fond, le cœur de l'histoire, c'est comment cela a eu un impact dans la vie des gens ordinaires, des gens comme nous. Marie, Joseph, les bergers qui gardaient les moutons, les sages qui habitaient si loin, eux, les premiers, n'auraient jamais cru qu'ils se retrouveraient dans cette histoire merveilleuse. C'est ainsi que le message de Noël, c'est que Dieu peut faire des choses pour changer radicalement notre vie. Quand Dieu débarque dans notre vie, quand il nous embarque avec lui, ça bouscule pas mal de choses. Et ça doit le faire parce que Dieu, il est grand et nous sommes petits. Quand Dieu, le Fils lui-même, s'est manifesté en chair et en os il y a 2000 ans, et quand il se manifeste aujourd'hui par son esprit, ça doit avoir un impact dans notre vie. Alors si nous nous penchons de nouveau sur cette histoire, le but, c'est que nous prenions de nouveau conscience comment l'arrivée de Dieu aujourd'hui, l'arrivée de l'Esprit de Jésus dans notre cœur, dans notre âme, dans notre vie, comment cela nous change, nous bouscule, nous perturbe, nous transforme quand nous l'accueillons avec foi. Le thème ce matin, c'est un peu accueillir Jésus. Mais ce n'est pas si évident que ça. Alors ce matin, je nous invite à suivre Joseph et à suivre Marie sur leur aventure. Je ne sais pas si vous avez à la maison la petite crèche avec toutes les figures. Et là, ils sont là, Marie et Joseph, tranquilles, ils entourent le petit bébé, le nouveau-né. Mais quand même, pour arriver là, Marie et Joseph ont fait tous les deux un sacré bout de chemin que nous allons voir ce matin. Alors, honneur aux femmes, nous allons écouter d'abord l'histoire de Marie dans l'évangile selon Luc, chapitre 1. L'évangile selon Luc, chapitre 1. À partir du verset 26. Écoutons. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point. Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. » Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. On continue, « Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur les pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. C'est un très beau passage, n'est-ce pas? Et c'est un passage assez unique dans les évangiles. Là, nous nous trouvons dans l'espace intime des femmes. D'abord, on est chez Marie. Marie qui était sans doute une jeune adolescente. Il faut dire que d'après la Bible, Marie était une fille ordinaire. La prétention catholique qu'elle était née parfaite, sans péché, c'est ce qu'on appelle la conception immaculée, cela n'a aucun fondement biblique. Le culte rendu à Marie, c'est une tradition très ancienne, mais c'est une tradition qui n'a aucun fondement biblique. Marie, tout ce que nous connaissons sur elle, vraiment, c'est dans la Bible. Nous ne la connaissons pas bien. Alors respectons son humanité et restons avec ce que dit la Bible. C'était une jeune fille, fiancée, mais pas encore mariée. C'est-à-dire, Marie avait devant elle quelques mois d'attente, on peut dire quelques mois de liberté avant la vie conjugale. Et c'est dans ce moment opportun que Dieu choisit pour s'approcher d'elle. Remarquons comment il envoie l'ange Gabriel qui transmet ce message de la part de Dieu, de la part du Très-Haut à cette jeune fille effrayée, confuse, pour lui annoncer qu'elle donnera naissance au Fils de Dieu, au roi qui est plus grand que le roi David. Et remarquons comment Gabriel lui explique qu'il n'y aura pas d'intervention humaine, mais que Dieu lui-même couvrira Marie par son esprit et par sa puissance. Et il faut l'avouer, nous ne pouvons, avec notre compréhension humaine, entrer plus loin dans ce grand mystère. Nous ne pouvons entrer plus loin dans ce moment où Dieu, qui est esprit, se fait concevoir en être humain. Les meilleures têtes humaines s'y sont penchées dessus depuis des siècles. Et on ne peut pénétrer plus loin dans ce mystère, ce moment à nuit. On ne peut pas même le décrire. Comment Dieu, qui est esprit, se fait concevoir un être humain. Mais je voudrais qu'on remarque quand même l'effet sur Marie du message de Gabriel. Elle était effrayée, elle était confuse. Mais une fois que Gabriel eut fini, Marie dit tout simplement: « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Je suis la servante du Seigneur. Marie prend conscience à ce moment-là qui elle est sous le regard de Dieu. Elle assume un nouveau rôle. Elle assume sa destinée. Et c'est vrai que pour chaque individu, quand on peut dire à soi-même et aux autres « je suis », ça c'est un moment clé dans sa vie, le moment où on sait qui on est. C'est à ce moment-là où l'on sort de l'enfance et l'on commence la vie adulte. Et pour Marie, tout bascule là, à ce moment où Marie affirme: je suis la servante du Seigneur. Car remarquons ce que Marie choisit de faire tout de suite après, ou peu de temps après. Verset 39. Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Il faut savoir que Galilée, où habite Marie, c'est le nord. Juda, où habite Élisabeth, c'est dans le sud. Donc là, Marie fait un voyage d'une centaine de kilomètres, apparemment toute seule. Un voyage qu'elle choisit de faire elle-même, spontanément. Spontanément, comme ça, elle sort de chez elle. Elle fait ce voyage pour elle-même et pour comprendre ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Marie choisit pour un moment, de quitter son cercle familial, de quitter son fiancé et de partir. Donc, elle commence à agir pour elle-même. Et c'est beau l'accueil que lui donne Élisabeth quand elle s'écrie: « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Et là, on voit deux femmes, les deux femmes seules au monde qui sont complices dans le projet de Dieu. Et voilà que Marie répond par un chant qui exprime tout son épanouissement. « Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Quelle assurance, n'est-ce pas? Quelle confiance! Marie est consciente d'elle-même. Et elle sait que dans le monde, dans la société, elle n'est pas grand-chose. Elle a parlé de sa bassesse. Mais elle sait, et elle affirme que Dieu l'a bénie. Non seulement Dieu, l'Esprit, a-t-il mis dans son sein une vie nouvelle qui sauvera tout son peuple, mais Dieu, l'Esprit, a donné aussi à son âme une nouvelle vitalité. Cette vitalité qui jaillit spontanément dans ce chant magnifique où Marie chante son bonheur. Elle chante le bonheur de son peuple, elle chante la grandeur de Dieu. Elle chante la compassion de Dieu et sa justice. Verset 50. La miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié des biens les affamés. Il a renvoyé les riches avides. Donc voilà, elle chante la grandeur de Dieu. Dieu est en train de faire une grande chose. Il se prépare à entrer dans l'histoire humaine. Mais la question que pose l'évangile selon Luc, c'est qui est-ce qui le chante? Qui est-ce qui le voit? Luc, dans son récit, nous fait comprendre que ce ne sont pas les grands du monde qui voient ce qui se passe. Si vous avez lu le début de l'évangile, le début de l'histoire, vous savez que Zacharie, le mari d'Élisabeth, Dieu lui a fermé la bouche. Il devait rester muet pendant la grossesse d'Élisabeth. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru. Zacharie, qui est sacrificateur au temple, reste muet. Et ceux qui chantent la gloire de Dieu, ceux qui parlent de la gloire de Dieu, ce sont les petits. Élisabeth, Marie, et plus tard, les bergers. Ainsi, on voit que l'arrivée de Jésus dans le monde, c'est une complicité directe entre Dieu, le Très-Haut, et les Très-Petits. C'est un accès, une communication directe. Parce que Jésus dira plus tard, quand il sera grand, il dira, Luc chapitre 5, verset 32, Jésus dira, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Je suis venu pour les pécheurs, les petits, les malades. » Et voilà la grande leçon que nous apprenons de cette histoire. Dieu, le Très-Haut, est descendu vers nous, les Très-Petits, en son Fils Jésus. Et si nous le recevons par la foi dans notre vie, dans notre âme, si nous le recevons, nous pouvons nous épanouir sous son regard. Quand nous accueillons Jésus, qu'est-ce qui jaillit dans notre cœur? C'est la confiance, c'est l'amour, c'est l'adoration. Il y a un épisode pour illustrer cela dans la vie de John Wesley, fondateur du mouvement méthodiste au XVIIIe siècle. John Wesley était prédicateur même avant sa conversion, il était prédicateur. Et il avait pris le bateau pour aller de l'Angleterre, partir en Amérique pour aller prêcher. Et pendant la traversée de l'Atlantique, un grand orage s'est levé. Le bateau était pas mal secoué. Et John Wesley craignait qu'il allait mourir. Mais là, au milieu de la tempête, il entendait un autre petit groupe de chrétiens, aussi sur le bateau, qui chantaient tranquillement pendant cet orage. Peu de temps après, John Wesley discutait avec le responsable de ce groupe et ce responsable a posé la question à John Wesley, « Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ ?» Wesley répondait par ce qu'il savait sur Jésus, par ce qu'il espérait, mais ses réponses ne venaient pas de son cœur. Ne faisait pas de son cœur, parce que dans son cœur, il ne connaissait pas encore Jésus. Par contre, ces autres chrétiens, en pleine tempête, pouvaient chanter sans peur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu l'Esprit de Jésus dans leur cœur. C'est ce que nous apprenons de l'histoire de Marie. C'est un récit très intime. Mais maintenant, je nous invite à écouter le récit dans l'Évangile selon Matthieu, qui porte un autre regard sur les événements. Donc là, Matthieu chapitre 1. C'est un autre regard sur les événements. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Et voilà les événements du point de vue de Joseph. D'abord, on reconnaît à peu près les traits masculins de ce récit. Il est plus synthétique, moins bavard, donc ça doit être un homme qui parle. Mais plus important, on voit que Marie est effacée. Marie, la jeune femme spontanée qu'on a vue tout à l'heure, elle est complètement effacée sous le regard plutôt sévère du fiancé. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Là, vu de l'extérieur, on est au bord du gouffre. La grossesse vue de l'extérieur est irrégulière, problématique, c'est le moins qu'on puisse dire. Joseph se trouve dans une situation difficile. Il ne veut pas dire publiquement que Marie est une femme adultère, mais l'enfant qu'elle porte n'est pas le sien. Au fond, pour Joseph, le problème ne doit pas être le sien. Alors, que Marie retourne chez sa famille et que sa famille s'occupe d'elle. Lui, il tire son épingle du jeu. Mais voilà, on est au bord du gouffre. Heureusement qu'il y a l'ange qui vient pour crever l'abcès. Remarquons bien ce qu'il dit, l'ange. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ne crains pas. C'est ça le problème. Joseph, il a peur. Il a peur. Il repousse Marie parce qu'il, lui, il a peur. J'imagine qu'il a deux raisons pour avoir peur. D'abord, il avait perdu le contrôle de ce qui se passe. On imagine Joseph, dans ses projets, pensait qu'il allait épouser une jeune fille tranquille, une jeune fille sage qui resterait à la maison. Mais là, les projets sont gâtés. Pour Joseph, c'est un gâchis. Il a perdu le contrôle. Deuxième chose, tout le monde les regarde. Il a le jugement des autres. Au fil des mois, tout le monde les regarde et tout le monde commence sans doute à se raconter des histoires, à montrer du doigt. Là, pour un homme qui se prépare à se marier, c'est lourd. Ce mec, il a peur. Mais l'ange lui dit, ne crains pas. La leçon pour nous, peut-être pour nous les hommes, c'est de faire face à notre peur. Quand il y a la peur qui entre dans les relations, qui pourrit les relations, c'est difficile, c'est compliqué. Et aussi la peur se cache, la peur a honte. Donc, dans une situation difficile où on essaie de trouver une issue, où on essaie de justifier une démarche ou forcer une démarche, on peut inventer toutes sortes d'arguments, on peut avancer toutes sortes de raisonnements pour pousser les choses, pour forcer les choses, sans avouer qu'au fond, on agit parce qu'on a peur. Et quand il y a la peur dans les relations qui n'est pas reconnue, ça pourrit les relations. Faire face à la peur et la vaincre. Qu'est-ce qui vainque la peur? Marie nous l'apprend, c'est la foi. C'est la foi en Dieu. Et l'ange doit instaurer en Joseph la foi. J'imagine qu'aujourd'hui, il dirait à peu près ceci. Joseph, pour tes petits projets domestiques, tant pis. Franchement, tant pis. Parce que là, c'est la volonté de Dieu qui se réalise. Tu vas dans les synagogues et depuis des siècles, on lit des prophéties. Tu as entendu les prophéties, mais maintenant, aujourd'hui, ici et maintenant, les prophéties sont en train de se réaliser. Là, on est en train de sauver le peuple de Dieu. Alors Joseph, s'il te plaît, ne gâche pas la fête. Reste avec nous. Par la foi, Joseph doit prendre sa femme. Joseph doit regarder Marie. Cette jeune femme qui change, qui rayonne. Et au lieu de la juger, au lieu de la rejeter, il doit savoir sans un ombre de doute que Marie était, qu'elle reste et qu'elle resterait sa femme. Et Joseph doit dire cela à lui-même et à tout le monde. Marie, c'est sa femme. Il doit l'entourer, la protéger, l'encourager à s'épanouir. Et ensuite, verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu lui donneras le nom de Jésus. Le Fils de Dieu, qui pouvait être un enfant illégitime, ce bébé sur lequel la communauté raconte on ne sait pas quelles histoires, Joseph doit l'accueillir le premier. Joseph doit donner à ce bébé son nom et sa place dans le monde. Et on la foi que Jésus, qui signifie justement sauver, délivrer, ce bébé grandirait pour changer le monde entier. C'est lui, dit l'ange, qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, c'est une situation compliquée. Le rôle de Joseph, c'est de rassembler cette famille pour pas qu'elle s'éclate. Le rôle de Joseph, c'est de rassembler cette famille et de dire au monde, tout va bien. Tout va bien. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il est plus proche que vous ne le pensiez. Ben oui. Jésus est venu pour sauver le monde. Et là, on voit que sa mission de sauver les choses commence alors qu'il n'est pas encore né. Parce que là, Joseph aurait pu faire une grosse bêtise, n'est-ce pas? Il aurait pu repousser Marie, il aurait pu repousser Jésus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait peur. Mais là, face à une situation qui le dépasse complètement, Joseph arrive à comprendre que l'enfant qui est là porte le nom prophétique d'Emmanuel. Dieu avec nous. Joseph découvre le courage de la foi. La foi pour assumer ses responsabilités. De Marie envers Marie et de Père envers Jésus. Pour accueillir Dieu dans sa petite famille. Et la leçon pour nous, c'est que nous avons besoin de Jésus pour nous sauver de nous-mêmes, je crois. Pour pas que nous fassions des bêtises, par peur ou par folie. Mais au contraire, pour que dans nos relations, nous fassions preuve de courage, de fidélité, de responsabilité. On sait qu'aujourd'hui, dans la société, les forces nous poussent plutôt à nous éloigner, à nous séparer. Les forces nous poussent à nous barrer. Mais dans une vie de couple, dans les amitiés, c'est la présence de Jésus dans la relation qui empêche cela. Parce que lorsque Jésus est là dans la relation, il y a la communion spirituelle à cultiver. On prie ensemble. On adore Dieu ensemble. On reste ensemble. Avec Jésus, dans les relations, on peut chasser la peur, on peut chasser les mensonges, on peut chasser les manipulations. Avec Jésus, on peut instaurer la foi, l'espérance, l'amour. Donc voilà. Je m'arrête là, c'est l'introduction à l'histoire de Noël. J'espère que cela nous a aidé à voir qu'en fin de compte, il y avait des choses là qui ressemblent à notre vie. Je ne sais pas s'il y a parmi nous des amateurs de la musique folk des années 60. Si vous connaissez le duo américain Simon et Garfunkel, c'était en août 66. Le duo Simon et Garfunkel ont enregistré le cantique Silent Night. Voici Noël aux douces nuits. Ils ont enregistré ce chant sur le fond des infos de 19h du 3 août 1966. Donc si vous écoutez le chant, il y a Simon et Garfunkel avec leur voix pure qui chantent « Voici Noël, ô douce nuit ». Il y a un journaliste qui raconte les actualités de l'époque, des débats parlementaires sur le racisme, la mort d'un comédien célèbre une manifestation en faveur des droits civils, le procès d'un homme accusé du meurtre de 8 infirmières, et bien sûr la guerre au Vietnam. 37 ans plus tard, les actualités n'ont pas beaucoup changé, n'est-ce pas? Et nous, nous nous préparons à fêter Noël. Je lis le verset qui est sur la vitrine, là, Ésaïe, chapitre 9, verset 5, qui résume notre message. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dieu est là parmi nous. Il est venu il y a 2000 ans en chair et en os. Il est là par son esprit. Qu'on le voie ou pas, Dieu est parmi nous. Qu'on le reconnaisse ou pas, Dieu est parmi nous. Mais l'invitation est là. Accueillons dans notre vie, dans notre fête de Noël, dans notre âme, accueillons Jésus. Notre vie est compliquée. Nous sommes plus ou moins compliqués, nos relations sont difficiles et ça se voit surtout à Noël. Mais malgré cela, peut-être à cause de cela, accueillons Jésus dans notre vie pour qu'il nous transforme, nous purifie, nous encadre, pour que Jésus nous donne le courage de la foi et la générosité de l'amour. On a chanté tout à l'heure, règne en nous, règne en moi, admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, règne en nous. Amen.